Nous allons maintenant donc démarrer donc par Bruno Troublet cette rencontre sur le signe de la voile donc et à partir en fait de l'ouvrage qui s'appelle Pas une minute à perdre. Donc pas une minute à perdre pour démarrer cette rencontre qui va être animée par Ludovic Sorlot, ici présent.
Mon éditeur.
Qui est l'éditeur de Bruno Troublet à travers aux éditions de l'Albatros et qui est aussi éditeur en fait de revues spécialisées donc sur la voile, la course. Il y en a une qui s'appelle Course au large. Et l'autre qui s'appelle Cup Legend. Je vous passe la parole.
Merci en tout cas de votre invitation. Moi, c'est un grand honneur de recevoir Bruno Troublet sur l'Île-Dieu. C'est la première fois qu'il vient ici. Je crois qu'il a apprécié l'île et il va revenir chaque année.
En tout cas, me venger l'an prochain, oui. Ouais.
Et donc, Bruno m'avait envoyé son manuscrit qu'il a écrit pendant le Covid ou quand tu étais à Auckland. Et c'est des récits d'une vie assez incroyable qui commence en fait à Versailles et qui va faire le tour du monde avec des événements incroyables qu'il
et
a
des
su
rencontres aussi,
des rencontres incroyables qu'il a su monter. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse pendant 20 minutes, qu'il nous raconte un peu ses anecdotes, et puis après qu'on fasse un échange avec vous sur toutes les questions que vous auriez sur la Coupe de l'América, la Coupe Louis Vuitton, mais également les événements qu'a organisé Bruno. Alors Bruno, il se dit aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie, et il se dit professeur de récréation plus
skipper. C'est un métier, hein.
Il considère que c'est un métier. Alors, raconte-nous un peu ce que tu sais faire de mieux, Bruno, c'est-à-dire organiser des événements. Ça a commencé finalement avec la Coupe Louis Vuitton, qui t'a rendu assez célèbre. Mais en fait, tu as fait beaucoup d'autres choses. Et avant ça, donc, tu as commencé surtout les JO. Et dans les JO, ce n'était pas du travail non plus, parce que tu es le seul, je crois, qui a participé aux JO sans jamais t'être entraîné, ni avoir fait de footing.
Puisque non, j'ai jamais fait de footing de ma vie. Et quand j'étais aux Jeux Olympiques, on me donnait le chronomètre pour l'entraînement. Les gens, les équipages couraient, et moi, je prenais le chronomètre.
C'est ça. Donc ça a commencé en fait à Mexico. Tu as participé deux fois aux JO, en flying de chemin.
68 et 76. En 68, on est arrivé 5e. En 76, on est arrivé 6e. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter pour ne pas avoir de résultats pires.
Et ta phrase célèbre, c'est la revanche du blazer sur le survêtement.
Oui, parce qu'en fait, c'est une petite anecdote. En 1976, on a fait les sélections olympiques au dernier moment, sans aucun entraînement, et on a gagné, et l'équipe avait titré pour la voile la revanche du blazer sur ce vêtement, parce qu'on avait jamais, on s'est jamais entraîné, et on était sélectionné pour aller à Montréal.
À Montréal. En tout cas, le Baron Bic te repère, et ça va être un peu le début de ta passion et de ton entrée sur la Coupe de l'América. Et c'est vraiment un personnage qui a marqué ta vie.
Le Baron Bic m'a énormément marqué. C'était quelqu'un d'extraordinaire qui avait un bon sens paysan redoutable. C'est l'homme qui, pour développer sa boîte aux États-Unis, Big Pen Corporation, il allait 3 jours par mois aux États-Unis. À l'époque, on allait aux États-Unis en changeant 2 fois d'avion. Il fallait 15 heures pour aller aux États-Unis. On s'arrêtait dans l'Irlande, on s'arrêtait au Canada avant d'arriver à New York. Et à New York, Bic est allé 3 fois là-bas, 3 mois d'affilée, puis le 4e mois, il s'est dit « Mais pourquoi, nom de Dieu, pourquoi c'est moi qui souffre du décalage horaire ?» Et il a acheté un appartement sur la 5e avenue, il a fait obstruer les fenêtres, et il continuait à vivre l'heure française. C'est-à-dire qu'il convoquait à New York, à 9h du matin, heure française, c'était 3h du matin, heure américaine, des gens pour des rendez-vous. Quoi. Et il repartait 3 jours après, frais comme un formidable, et donc il n'a pas souffert, il n'a jamais souffert du décalage horaire. Voilà le bon sens paysan de Bic. Et Bic, il m'a fait venir, donc, c'était le camp du Drador, hier, il avait 3 bateaux, il avait 3 skippers, il m'a fait venir après les Jeux pour un essai, et il se trouve que, par hasard, parce qu'il avait un des bateaux était épouvantablement mauvais, France 2, il avançait pas le bateau. On l'a mis à l'eau en grande pompe avec la comtesse de Paris comme marraine, et le bateau en fait n'avançait pas. Il remorquait 5 ou 6 tonnes d'eau. On s'est entraîné plusieurs jours, on s'est tout de suite rendu compte que le bateau marchait pas. Un jour, le bob du baron est tombé à l'eau, et le chapeau a suivi le bateau comme ça pendant au moins 300 mètres. Il y avait tellement d'eau derrière le bateau, c'était une usine marémotrice. Et donc, on s'est rapidement rendu compte que le bateau ne pouvait pas aller à l'America's Cup. Et on a essayé quand même une dernière tentative. Je suis allé chercher deux dynamomètres à Marseille. Et j'ai dit à Bic, on va essayer de voir pourquoi le bateau, si vraiment le bateau tire tellement d'eau par rapport au précédent qui était France 1 de 1970, 7 ans avant. Et effectivement, on a mis deux dynamomètres derrière le bateau annexe, le bateau moteur, et on a remorqué les deux bateaux en même temps. Et c'est très curieux parce que les dynamomètres, le France 2 marchait merveilleusement jusqu'à 2, 3, 4 nœuds. La résistance du bateau était moindre, bien moindre que celle de France 1. Et puis dès qu'on arrivait aux vitesses auxquelles ces bateaux fonctionnent, c'est-à-dire genre 8 nœuds, 7, 8 nœuds, à ce moment-là, le bateau tirait beaucoup plus de résistance que l'autre. Toujours est-il qu'on a donc renoncé à prendre France 2 et on est allé à l'America's Cup avec France 1 en 77. C'est-à-dire, c'est comme si on prenait une Formule 1 et qu'on faisait un Grand Prix de Formule 1 7 ans après la conception de la voiture. Donc ça a été une catastrophe en 77. Je crois qu'on n'a gagné qu'une seule régate. Mais Bic a continué en 80. Là, on a fait un autre bateau qui était France 3, qui est une véritable merveille. Et en 80, on est arrivé en finale des Challengers, ce qui n'était jamais arrivé. Et j'avais des rapports avec Bic extrêmement curieux parce que j'étais un peu son 12e enfant. Et l'équipage était logé dans une maison et moi j'habitais dans une chambre à côté de la sienne. Et il était très 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 lève-tôt, genre 4h du matin. Et il venait me voir à 4h du matin dans la chambre à côté de la sienne avec des mules. Je n'oublierai jamais ça, il avait des mules dorées, brodées, dorées. Et il prenait les deux mules. Parce que c'est du match racing, c'est-à-dire qu'on ne court pas à 15 bateaux ensemble, on court, c'est des duels successifs. Donc il y a deux bateaux. Et il prenait les mules sur mon édredon, il me réveillait et il me disait « Trouble », parce qu'il m'appelait Trouble. Parfois Big Trouble. Et alors il prenait les mules et il me dit « T'étais là, Trouble, l'autre a fait ça, toi t'as fait ça, explique-moi. » Alors je lui ai expliqué, puis il me dit « Ok, je te vois tout à l'heure au petit déjeuner. » Et alors il naviguait à côté de moi, toujours. C'est-à-dire, j'étais à la barre et lui était à côté. Il était habillé avec une somptueuse veste en lin, blanche, magnifique, lin et soie. Et il était très, très, extrêmement fier. Et il vérifiait tout ce qui se passait sur le bateau. Et puis alors, si on était devant, avec une certaine avance, il disait, Trouble, tu vas la gagner celle-là, cette régate. Ça va, on est bien en tête. Je lui disais, oui, on a peu de chances de se faire attraper. Alors, écoute-moi, je prends la barre pour l'arrivée. À ce moment-là, à l'arrivée, il y avait la famille, les photographes, les télés, etc. Et il était absolument enchanté, émerveillé. Et puis le lendemain, on était derrière, aucune chance de gagner. Il me dit, Trouble, tu vas pas la gagner, celle-là. Alors je lui dis, non, ça c'est pas facile, on a 2 minutes de retard, il reste deux bords, on va jamais gagner. Il me dit, s'il s'agit de perdre, je peux le faire moi-même. Et voilà comment était le baron Bic. Et alors à l'époque, il se battait, je continue encore une ou deux anecdotes, à l'époque, il se battait contre Gillette pour les rasoirs aux États-Unis, et donc les jetables. Donc tous les soirs, il nous donnait à chacun, jeune équipage, la moyenne d'âge était 21 ans, jeune équipage, il nous donnait à chacun deux rasoirs, un Gillette et un Bic. Et il nous disait, tu te rases, vous allez tous vous raser, une joue avec le Bic et une joue avec le Gillette. Et le lendemain matin, on était en file indienne devant lui, comme ça. Hein. Et puis il nous a défilé l'un après l'autre. Il essayait de deviner quel joue on avait rasé avec quel rasoir. Voilà l'homme, formidable. Ça m'a énormément marqué. Et quand il a arrêté, en 60-80, donc c'était, il a fait 10 ans l'America's Cup, de 70 à 80. En 70, il s'était perdu dans le brouillard avec Tabarly à bord. La dernière régate en 70, c'était absolument extraordinaire. Les bateaux se sont perdus dans le brouillard. Et il y avait ce pauvre Tabarly à bord qui se demandait ce qu'il était foutu dans cette galère. Et en fait, on a découvert, quelques 15 ans plus tard, j'ai découvert par les Australiens, que les Australiens avaient utilisé un système de goniot pour localiser le bateau d'arrivée. Et donc ils avaient plus ou moins triché. Et j'ai annoncé ça à Bic, ça lui a fait un plaisir immense parce qu'il n'avait jamais digéré de ne pas avoir jamais trouvé le bateau d'arrivée. Voilà.
Et le baron Bic, c'est lui qui a fait le meilleur résultat de la France à la Coupe de l'Amérique, puisque vous êtes arrivé en finale. Il y a également l'anecdote, c'était un très très bon marin, il connaissait toutes les abacs du bateau. Il y a l'anecdote où à un moment un cargo passe,
Je m'adresse aux marins parce qu'ils vont comprendre. Les 12 mètres sont des bateaux très lourds qui pèsent 20 tonnes et qui sont très très sensibles à l'onde, pas à la vague, à l'onde. C'est-à-dire qu'un jour, il y avait un bateau à l'entraînement, il y a un bateau qui est cargo qui est passé très loin au large et du coup, le sillage du bateau s'est transformé comme à une onde quand on était à 5-6 000 de là. Un quart d'heure après, cette onde est arrivée près du bateau et Bic regardait tout sans arrêt l'électronique. Il ne regardait que ça. Et il savait que d'à telle force de vent, on marchait à 8 nœuds 2, à 30 degrés du vent, etc. Donc il savait exactement ce qu'il fallait faire. Et alors arrive cette espèce de houle qui attrape le bateau par l'arrière, comme ça. Et puis le bateau s'est retrouvé un petit peu en descente sur cette onde. C'était imperceptible. Et d'un seul coup, l'angle du vent a diminué, la vitesse a accéléré. Enfin, Bic a dit « Touchez plus à rien, on gagne la Coupe américaine !» Et alors, ce moment glorieux a duré quelques temps quand même, parce que le temps que la vague passe sous le bateau, c'est d'ailleurs une sensation absolument formidable, et bien évidemment, la vague a fini par doubler le bateau, et le bateau s'est assis, et là, les aiguilles en tombent complètement. Mais enfin, c'était quelqu'un qui m'a énormément marqué, ce baron Bic.
Et après le baron Bic, te voilà aussi à la tête de ton propre défi, et là, tu vas partir sur la coupe, avec pas beaucoup de moyens, mais avec le producteur célèbre Rousserroir qui a fait les bronzés.
Oui, en fait, quand Bic, le dernier jour en 80 à Newport, on a perdu, donc on est éliminé. Retour au port à la remorque, Bic était quasiment en larmes. Il dit « J'ai vécu avec vous cette bande de gamins de 20 ans, j'ai vécu des mois extraordinaires. » Maintenant j'arrête, j'ai fait ça pendant 10 ans, j'arrête. Et Trouble, je te donne tout. Je te donne les bateaux, les tenders, les voiles, je te donne tout, il faut absolument que tu continues. Alors j'ai dit formidable, c'est vraiment gentil, etc. Mais j'ai pas le premier rond. Il me dit mais tu vas trouver. Et puis 3 jours après, il m'appelle, il me dit Trouble, j'y réfléchis, en fait je te donne rien du tout. Parce que si tu as des chiots qui n'ont pas de pédigré et que tu les donnes, les gens ne les emmènent pas chez le vétérinaire, s'en occupent pas bien. Donc mes bateaux, c'est pareil. Ils n'ont pas de pédigré, donc tu ne vas pas t'en occuper bien. Donc je ne te les donne pas, il faut que tu trouves 3 millions. Ah ben dis donc, c'est sympa ça. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? Et du coup, je ne savais pas trop comment faire, parce que je n'avais pas le premier rond, j'étais petit Versaillais. Et je n'avais pas le premier rond pour faire ça. Mais je connaissais bien Christine O'Krent, et je l'ai appelé, et je lui ai dit... Elle m'a proposé de venir au journal de 20h, et on a, au journal de 20h, lancé un appel pour que quelqu'un prenne la suite de Bic. Formidable. Et un type a appelé la régie en disant « Voilà, je suis preneur, je suis partant ». C'était Yves Rousserroir qui a produit Les Bronzés, Emmanuel et tout ça, qui était un producteur de cinéma, que vous avez tous sûrement connu, en tout cas de nom, qui était un type charmant, qui était ravi d'avoir fait ce coup sur TF1, mais qui n'a jamais voulu, soit il n'avait pas les moyens, soit il n'avait pas envie, mais en tout cas, il n'a pas donné l'argent qu'il fallait pour faire un vrai défi pour la coupe. Donc on a eu un mal fou, on a fait des 2 chevaux France 3, je crois qu'il y en a même sur l'île.
Ouais, il y en a 2 sur l'île. D'ailleurs, il y a un des propriétaires ou pas qui est...
Non. On a fait des polos Agnès B, ma sœur bien-aimée, nous a donné plein de trucs. N'empêche qu'on a énormément ramé en 83. Et faire la Coupe américaine quand on a de l'argent... C'est déjà très 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 dur, c'est sans doute un des plus difficiles trophées sportifs au monde, mais quand on n'a pas d'argent, c'est un calvaire total. Parce que quand on fait des régates et qu'on a 60 bateaux sur la ligne de départ, si on fait 40e, on peut toujours dire à sa grand-mère qu'il y en a 20 derrière. L'America's Cup, c'est une succession jour après jour de duels, c'est-à-dire que soit on gagne, soit on est mort, et quand on commence à accumuler les défaites jour après jour en duel, c'est très 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 difficile pour le skipper, pour Yves Rousserroir, enfin pour les gens qui font le management. C'est très difficile de maintenir une bonne ambiance parce que on n'a pas grand chose à se mettre sous la main, quoi. Encore une fois, en flotte, il y a toujours des bateaux derrière. Là, il n'y en a pas, donc l'America's Cup, c'est absolument dramatique si on n'a pas d'argent et qu'on perd.
D'ailleurs, moi, je vous invite à voir le film Win, qui est l'histoire d'un défi à America's Cup où le type devient complètement fou, mais qui est passionnant à regarder. On va avancer un petit peu dans le temps et tu vas nous raconter comment tu as créé et tu as été à l'origine de la Coupe Louis Vuitton et d'où vient un peu comment ça s'est organisé. Ça a duré 30 ans quand même.
Oui, alors L'America's Cup, il n'y avait jamais de sponsor. Il n'y a jamais eu de sponsor dans l'America's Cup pendant des années. Et le New York Club chargeait un club mondial choisi à l'avance d'organiser la régate des sélections du Challenger. Parce qu'en fait, l'America's Cup, c'est un défendeur, l'Amérique pendant 132 ans, qui a affronté le meilleur des pays étrangers. Et alors, c'est ce processus de sélection du meilleur bateau étranger se faisait de façon très amicale, sans aucune organisation sérieuse. Et en 83, j'avais pas d'argent du tout. Et chaque équipe participante devait participer, devait contribuer aux frais d'organisation de la régate de sélection. Donc moi, j'étais skipper du bateau français. On me dit, ben voilà, Bruno, il faut que tu trouves 500 000 dollars pour ta part dans l'organisation du processus de sélection du bateau Challenger. Alors je dis, mais moi, j'ai pas un rond, les gars, c'est pas possible, j'ai pas de quoi acheter des voiles, je vais pas en plus donner 500 000 euros pour la sélection. Il faut que je trouve un sponsor. Et les gens m'ont dit, bah écoute, tu as une idée de sponsor, t'as qu'à en trouver un. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire appel à Vuitton, que je connaissais un petit peu. Et donc Vuitton a accepté de payer ce processus de sélection qui s'est ensuite développé de façon considérable, qui a été un succès énorme et qui a participé largement au succès de Vuitton dans les années 80.
Mais Vuitton à cette époque, c'est pas Bernard Arnault.
Non, c'était largement Bernard Arnault, quoi qu'il en dise. De même que Bernard Arnault prétend qu'il a créé LVMH, alors que LVMH a été créé 4 ans avant qu'il reprenne Vuitton. Mais enfin, je vais pas vous parler de Bernard Arnault parce que ça va être dramatique.
C'est dommage, parce qu'on avait répété un peu. Mais
pas en parler beaucoup, je peux en parler un petit peu, je peux en parler beaucoup.
En tout cas, tu commences la Coupe Louis Vuitton avec Henri Racamier.
Attends, j'arrive ouais. Encore une seconde. Dans mon livre, j'avais écrit des choses absolument vraies et très dures pour Bernard Arnault. Et mon avocat m'a dit, mais vous êtes complètement fou, parce que la diffamation, ça ne s'assure pas. On ne peut pas s'assurer contre un procès en diffamation. Et deux, c'est des sommes considérables. Donc, vous pouvez très bien, si Bernard Arnault le lit, le livre, et sûrement quelqu'un va lui montrer, vous pouvez très bien perdre un procès contre lui et avoir à payer 500 000 euros, quoi. Donc, du coup, j'ai un peu égratigné Bernard Arnault dans le livre, vous le verrez, mais n'empêche que j'ai retiré pas mal de choses embarrassantes pour lui.
Moi, j'ai soigné mon contrat avec Bruno par rapport à ça. Mais on peut quand même raconter la petite anecdote. Bernard Arnault, il n'aime pas beaucoup la Coupe d'América parce que ça a été créé avant lui par son prédécesseur, mais son fils Antoine aime bien la Coupe. Oui. On l'a vu plusieurs fois. Oui. En 90, il y a une anecdote qui est sympa, il décide d'arrêter.
Ah oui, alors ça c'est amusant. Ça c'est très amusant. En 95, Bernard Arnault avait soutenu Balladur et non pas Chirac aux élections de 94, je crois. Et il était très ennuyé. Et il se trouve que j'ai déjeuné. Il se trouve que Bernard Arnault décide d'arrêter l'America's Cup, fait une conférence de presse. Il y a un article dans le Figaro, etc. Vuitton, après 30 ans, quittait l'America's Cup. Donc c'était Yves Carcel, le président de Vuitton, m'appelle, il me dit, Bruno, écoute, la fois dernière, j'ai menacé de démissionner si on arrêtait la coupe, Bernard Arnault a cédé, cette fois-ci je ne peux pas faire grand-chose, il a décidé d'arrêter, on a arrêté, il faut que tu fasses autre chose. Donc je pars en bateau pendant un an avec ma femme et mes enfants, et puis je reviens, il y a eu les élections présidentielles entre-temps, et je reviens, et Chirac venait de passer. Et je me dis, ça serait quand même pas mal de faire un truc pour essayer de récupérer l'America's Cup. Et je déjeune avec Jean-François Lamour, qui était à l'époque patron des sports à l'Élysée. Et Jean-François Lamour, je lui dis, pourquoi on ne ferait pas une lettre de Chirac à Arnault pour dire que ça serait bien de continuer l'America's Cup pour le prestige de la France. Et nous voilà sur une table d'un bistrot à côté de l'Élysée, sur la nappe en papier, on a écrit la lettre. Et Lamour a mis ça dans un des nombreux parapheurs quotidiens de Chirac. Et Chirac, qui connaissait bien l'America's Cup parce qu'il avait soutenu avant le bateau Ville de Paris en 92 à San Diego, donc il connaissait la coupe. Et il a fait un truc qu'il ne fait jamais, il a rajouté une phrase au stylo sur la lettre qui est partie auprès d'Arnaud. Et 3 jours après, Carcel m'appelle et me dit, écoute Bruno, je ne sais pas ce que tu as manigancé, mais Arnaud vient de m'appeler. vient de m'appeler en me disant de retourner dans l'America's Cup séance tenante, quel que soit le budget. Et ça, Arnaud, à mon avis, il n'a jamais su que c'était un coup monté, cette lettre. Il paraît qu'il l'a encore. N'empêche que c'était assez drôle.
Ah, c'est bien, il va apprécier le livre. Et bon, on va essayer d'avancer un petit peu plus. Ceci étant, la Coupe continue et toi, tu as été encore aux affaires et jusqu'à la dernière édition qui s'est tenue à Auckland, tu étais encore là-bas.
Voilà, j'ai fait ma première Coupe américaine en 77 comme barreur. Et puis, à partir des années 90, j'ai été dans l'organisation. Et j'ai été en Nouvelle-Zélande 6 mois, il y a 2 ans. C'est un pays que j'adore, c'est un petit peu ma seconde patrie. Et maintenant, la Coupe América aura lieu l'an prochain à Barcelone. J'ai dépassé l'âge maintenant de travailler, mais enfin, n'empêche que je bosse encore un petit peu. Et les Néo-Zélandais qui organisent la Coupe l'an prochain à Barcelone m'ont dit la semaine dernière, écoute Bruno, on va inventer un job pour toi.
Donc on va te retrouver avec plaisir l'année prochaine. On va essayer d'avancer aussi sur d'autres sujets. Il y en a un qui te tient particulièrement à cœur, c'est Tara. Qui est lié d'ailleurs à la Coupe de l'América. Comment les choses se sont faites?
Alors Tara, vous savez que c'est l'ancien bateau
de Jean-Louis Etienne.
Jean-Louis Etienne, qui s'appelait Antarctica, et qui ensuite a été repris par Peter Blake, le héros néo-zélandais, qui a été tué à bord en 2001. Et il a été tué de façon absolument dramatique, dans la mesure où il était à l'embouchure de l'Amazone avec Tara. Il entamait, après avoir gagné la course autour du monde, gagné l'America's Cup 2 fois, etc., il entamait une nouvelle vie d'explorateur. Il avait l'intention de faire la dérive arctique, ce qu'on a fait ensuite, c'est-à-dire d'aller de Sibérie jusqu'au Groenland en passant par le pôle Nord. Et donc, Peter Blake était à l'embouchure de l'Amazone, ils sont allés dans une pizzeria, ils étaient sponsorisés par Omega. Donc ils avaient tous des grosses montres visibles Omega. Et puis il y a des voyous qui les ont repérés pendant cette pizzeria minable à l'embouchure de l'Amazone. Et quand ils sont rentrés à bord une heure après le dîner, ils ont été accueillis par des types armés jusqu'aux dents qui leur ont demandé simplement de donner les moteurs hors bord et tout l'argent liquide qu'ils avaient à bord. Et Peter Blake était un type immense, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, mais il avait une carrure impressionnante, il mesurait 1m95. Jamais personne de sa vie, même enfant, ne l'avait nargué, ne l'avait challengé, comme on dit en anglais. Et donc, quand il a vu ces mecs à bord avec des flingues, il est descendu en vitesse dans la cabine et il a pris son fusil à un coup qui leur servait à se défendre contre les ours sur la banquise et il a tiré. Alors, inutile de vous dire que la petite balle, je ne sais pas où elle a atterri, mais en tout cas, lui, il a été canardé, il est mort sur le coup, dramatique, dramatique histoire.
C'est
à la suite de ça que sa femme, que j'aimais beaucoup, Pippa Blake, c'est 3 mois après cette à peine remise, elle m'a appelé en me disant si trouvait une solution pour que quelqu'un reprenne le bateau. Et c'est à ce moment-là que ma sœur Agnès B et son fils Étienne ont décidé de reprendre le bateau et de créer la fondation Tara, qui existe encore. C'est mon fils qui dirige ce truc-là. C'est une PME, il y a 40 personnes à plein temps. C'est des budgets énormes. Et c'est un succès formidable. Ça a été très dur de trouver des sponsors au départ. Ma sœur a donné 1 ou 2 millions par an pendant plusieurs années. Et maintenant, ce sont les boîtes qui téléphonent, les gens qui téléphonent pour être sponsors. C'est absolument invraisemblable. L'évolution qu'il y a eu dans le domaine de l'écologie et de la recherche en 20 ans, parce que ça, je parle de 2001, là, on est en 2023, en un peu plus de 20 ans, les choses ont complètement changé. C'était impossible de trouver des partenaires. Et maintenant, les gens, je vous dis, appellent. Il y a une fille qui est chargée de prendre les appels des gens qui veulent être sponsors. C'est quand même formidable.
Et sur le projet Tara, il y avait d'ailleurs un capitaine qui était natif de l'Île-Dieu. Je crois qu'il y a quelques marins aussi.
Ah oui.
Il y a un projet d'ailleurs à venir, Tara.
Alors dans les soutiens de Tara, il y a des gens comme le prince Albert de Monaco qui nous donne 500 000 euros tous les ans depuis 20 ans, qui rêvait d'être explorateur comme son grand-père. Vous avez peut-être vu le musée océanographique de Monaco, qui est un endroit absolument extraordinaire, qui a été par le grand-père du prince Albert. Et on a des sponsors très fidèles. Et puis, je vous dis, ça continue à venir maintenant. Et le bateau, donc on a maintenant un autre bateau en préparation, dont vous allez entendre parler dans les semaines qui viennent, qui est une espèce d'énorme soucoupe de 25 mètres de diamètre. C'est un bateau, hein. Il est un peu ovale, mais il est grosso modo, c'est une soucoupe, et on va le mettre au pôle Nord, parce que l'inconvénient du pôle Nord, c'est qu'il n'y a pas de terre comme au pôle Sud, comme en Antarctique, et donc le seul moyen d'aller là-bas, c'est d'avoir un bateau.
Et pour revenir sur la Coupe de l'Amérique, le lien Tara, c'était Peter Black, mais la Coupe de l'Amérique, ça t'a permis de rencontrer des personnalités hors du commun. Tu en as fait, alors t'en as qui sont plus ou moins marrons, mais il y avait Bernard Tapie, il y a des anecdotes assez drôles avec le Phocéa, au voile de Saint-Tropez notamment.
Oui, Tapie c'était un voyou, mais c'était un voyou très rigolo et très charmant. Mais alors... Il avait une enfance très malheureuse, il allait en colo, comme il dit. Et alors, quand il a repris Phocéa, l'ancien bateau de comment il s'appelait ? Alain Colas, le fameux Alain Colas. Il a repris Phocéa, et il en a eu de cesse de battre le record de l'Atlantique avec Phocéa, alors qu'il n'est pas marin du tout. Alors, je lui dis, tu devrais commencer par faire la régate de Saint-Tropez à Noël. Il a amené le bateau à Saint-Tropez. Et il a été tapis, c'est-à-dire un peu voyou, un peu show-off, totalement show-off. Et on a fait la régate à Saint-Tropez. J'avais emmené à bord des gens comme Owen Jones et tout ça. C'était très très gênant d'ailleurs, parce que tapis accumulait les folies, par exemple. On est passé devant le port de Saint-Tropez, il a émis les 60 haut-parleurs du bateau à fond, avec la Valkyrie. Et on avait emmené Dennis Conner, etc. Et le bateau fait 72 mètres de long. Donc pour tirer des bords, pour sortir de Saint-Tropez, il y a des moments où on passait largement bâbord devant des bateaux prioritaires tribord. Mais on n'avait pas réalisé que l'avant passait, mais l'arrière ne passait pas. Donc les gens poussaient des hurlements. Et puis c'était assez glorieux d'aller... On avait été viré une bouée près de Port-Crolles, donc à l'extérieur du golfe de Saint-Tropez. Il y avait force 5-6 et on buvait des coupes de champagne sur le pont du bateau. Hein, ça roulait pas, ça marchait à 20 nœuds, formidable. On doublait des bateaux de course qui roulaient d'un bord sur l'autre, avec les gars en ciré et tout ça. Et donc c'était assez drôle, quoi.
Ouais. Ça fait partie des personnalités que tu as citées. Il y en a eu d'autres. Tu parles de Danieli.
Oui, à un moment, à un moment donné de ma vie, j'ai vécu à Antibes pendant 2 ans, et Danieli avait son bateau à Antibes, et il m'appelait de Milan. De Turin, et pour savoir si le temps était beau, et puis il arrivait en hélicoptère, on montait sur son bateau, on partait au large, et puis il retournait ensuite à Turin. Et Agnelli, c'est lui qui a inventé, il avait des cravates absolument, c'est lui qui a eu ces fameuses nœuds de cravate, il faisait 4 tours là, donc la cravate arrivait là, il avait un énorme nœud. Et c'est lui, d'après les journalistes italiens, c'est lui qui a inventé le mot vanité. Mais c'était un type absolument charmant.
Il y a d'autres personnes aussi qui t'ont marqué, dont Lindsay Owen-Jones, tu en as parlé tout à l'heure, l'ancien patron de L'Oréal.
Oui, alors Lindsay, il a gagné les 24 heures du Mans avec sa McLaren au moment où il a pris la présidence de L'Oréal. Et Mme Bettencourt a dit à Lindsay, écoutez... Ça m'ennuie vraiment, vous prenez la présidence de L'Oréal, ça m'ennuie que vous fassiez de la course automobile parce que c'est extrêmement dangereux, je vous demande d'arrêter. Et Lindsay, qui est un compétiteur absolument invraisemblable, a dit d'accord, il a arrêté, mais il voulait absolument se lancer dans un autre sport à haut niveau, et donc il a décidé de la voile. Et comme il ne fait jamais rien à moitié, il a acheté deux lasers, il m'a invité pendant 2 mois chez lui à Saint-Tropez tout l'été, et on sortait tous les jours pendant 5 heures pour s'entraîner en laser. Et ensuite, il a acheté des bateaux, il a acheté des wallis, et maintenant, il a un wallis de 33 mètres, absolument merveilleux. Et je ne suis plus invité à bord, parce qu'il n'y a que des professionnels à bord, qui sont d'anglo-saxons, qui sont payés entre 3 et 5 000 euros par jour chacun. Il y a 25 mecs, et ça, c'est des budgets absolument faramineux. Et moi, il ne m'invite plus à bord, parce qu'il a trop peur que je pique la barre.
Alors, je ne sais pas si tu as envie de dire un mot aussi sur Philippe de Broca ou d'autres personnalités, où on peut parler également de ton autre activité autour des bateaux classiques. Tu as une grande passion pour les
oui, c'est un petit peu la même passion pour America's Cup, c'est-à-dire que je suis toujours très ému de remettre en route des bateaux anciens. Là, j'ai trouvé une filière de bateaux américains des années 1900-1910, des P-Class, des Q-Boat. Les bateaux classiques ne sont pas très à la mode aux États-Unis parce qu'il n'y a pas de course de bateaux classiques. Donc il y a dans les chantiers américains des bateaux qui dorment depuis un siècle, abandonnés. Et c'est extrêmement réconfortant et rewarding de remettre en état ces bateaux, de les remettre à l'eau. On pense aux gens qui, à l'époque, s'étaient cassés la tête, avaient dépensé une fortune pour mettre des bateaux à l'eau. Et il faut savoir que dans les 1900-1910, le seul sport qui était dans le New York Times le lundi matin ou le Boston Globe, c'était les régates. Il n'y avait pas d'autres sports. Et donc les Astor, les Vanderbilt et tout ça, tout ce monde-là s'est mis à faire de la voile au début du siècle pour arriver finalement à descendre l'America's Cup. Et donc restaurer ces bateaux-là, c'est un projet passionnant et j'en ai déjà vendu, restauré une dizaine depuis 10 ans. J'ai trouvé un petit chantier dans le Maine. Alors on dit toujours que la France n'est pas compétitive par rapport à l'Asie, mais il faut que vous sachiez qu'on n'est pas non plus compétitif par rapport à certaines parties des États-Unis. Là, ce chantier que j'ai trouvé dans le Maine à Camden, on paye 25 € de l'heure, hein, et en France, on paye 75 € de l'heure pour restaurer un bateau. Donc, évidemment, le gars, il n'a pas de... C'est un artisan, c'est un tout petit chantier, il a à peine du papier en tête, il n'a pas de secrétaire, il n'a rien. N'empêche que c'est beaucoup plus intéressant de faire ça là-bas. Il y a des bois merveilleux dans le nord-est américain, proche du Canada, etc. Il y a des bois merveilleux, donc c'est facile de restaurer des bateaux là-bas. Et là, je viens d'en vendre un autre, là. C'est un bateau de 18 mètres, un P-Class qui s'appelle Joyant, qui va arriver à Saint-Tropez cet hiver. Là. On va faire les régates classiques.
On les voit régater en Méditerranée, c'est ça. D'ailleurs, tu as gagné avec Olympien.
Des bateaux passionnants, franchement. Beaux bateaux.
Et c'est Hervé Bazin, patron d'Accor, qui en a acheté un également et qui tue.
Oui.
Tu cours et qui se régale. On peut parler également de la Nouvelle-Zélande, si tu avais envie. C'est ton deuxième pays.
Oui, ma femme est à moitié anglaise et dans sa partie anglaise, elle est néo-zélandaise. Enfin, elle est un quart néo-zélandaise, disons. Et je suis très attaché à ce pays. J'ai découvert avec l'America's Cup. C'est un pays absolument merveilleux. J'ai un de mes fils qui vit là-bas, qui est commandant de bord dans l'équivalent de Air France là-bas, c'est-à-dire Air New Zealand, qui fait sa vie là-bas, et c'est un pays absolument unique. Il faut savoir que c'est grand comme la moitié de la France, c'est-à-dire c'est grand comme l'Italie ou l'Allemagne, et qu'il y a 4 millions d'habitants, donc en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de désert en Nouvelle-Zélande par rapport à l'Australie. La Nouvelle-Zélande est un pays absolument extraordinaire, et on se demande toujours, au détour d'une route, de voir des peupliers, de voir une rivière et tout, on s'étonne de ne pas voir de maisons, mais en fait, il n'y a pas assez d'habitants en Nouvelle-Zélande, entre guillemets. Il y en a largement assez, sûrement. Ils sont très contents comme ça, mais ils pourraient être beaucoup plus nombreux. C'est un pays absolument exceptionnel quand on pense à tout ce qui se passe en ce moment dans le domaine de l'écologie.
Bon, on a commencé avec des anecdotes assez marrantes. Il y en a plein dans le livre. On a terminé là depuis un quart d'heure où c'était peut-être un peu moins rigolo. Mais franchement, le livre est savoureux avec beaucoup de grands moments vécus par Bruno et les personnalités.
Il y a ici la famille d'Henri Racamier. Voilà, formidable. C'est quelqu'un que j'ai énormément aimé et apprécié, qui était le président de Vuitton, qui s'est fait chasser par M. Arnault. À ce sujet-là, je dirais simplement une chose, c'est que beaucoup d'analystes et de commentateurs ont dit que c'était un conflit de génération entre le jeune Bernard Arnault et Henri Racamier, qui est devenu président de Vuitton à 60 ans, c'est-à-dire qu'il a commencé une seconde vie à 60 ans, président de Vuitton. Il a multiplié par 50 le chiffre d'affaires de Vuitton en 10 ans, et c'était un homme absolument exceptionnel. Alors les gens disent toujours que c'est un affrontement de génération entre Bernard Arnault et Henri Racamier à l'époque, et moi j'ai toujours dit que c'était un affrontement d'éducation, c'est-à-dire entre un jeune voyou aux dents longues, qui était prêt à faire n'importe quoi, et quelqu'un, un vieux monsieur qui avait des principes, qui n'avait jamais vu les procédés qui ont été utilisés par Bernard Arnault. Je peux en citer un, qui est absolument hallucinant, c'est qu'à un moment donné, dans cette bagarre absolument...
Attends, on va couper le micro.
Non, je coupe pas le micro. Il y a peut-être quelqu'un qui prend des notes et qui vont les envoyer à Arnaud, tant pis pour moi. Mais il faut savoir quand même que Arnaud avait des trucs insensés. Il a continué après, mais là, l'anecdote que je vais vous citer maintenant, Arnaud et Racamier avaient des litiges judiciaires parce que Arnaud voulait reprendre la boîte. Et donc, il y avait à un moment donné, il y a eu un conflit qui est venu devant le tribunal de commerce de Paris, dont la présidente est israélite. Et M. Arnaud a réussi à faire une fausse lettre signée Jean-Marie Le Pen sur papier en tête du Front National, signée par Jean-Marie Le Pen, remerciant Racamier pour les 5 millions d'euros qu'il avait donnés au Front National. Et cette lettre est passée dans le Canard enchaîné la veille de l'audience du tribunal de commerce de Paris. Comment on peut faire des choses pareilles? Franchement, comment on peut faire des choses pareilles? Alors évidemment que la lettre, Monsieur Le Pen a dit « jamais fait cette lettre », etc. Enfin, la semaine qui a suivi, il y a eu un règlement de compte, mais on a pu prouver, montrer que cette lettre était un faux. N'empêche qu'elle était très 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 bien faite par l'équipe de Bernard Arnault, et qu'il y avait une demi-page dans le Canard enchaîné. Quoi. Donc voilà les mœurs de Bernard Arnault.
Bon. Moi, je suis content que tous les voileux soient venus, en tout cas. Bon, on va peut-être passer aux questions, s'il y a des questions pour Bruno. Sinon, peut-être sur la prochaine Coupe de l'Amérique. Peut-être pas Eric Orsenna.
Je crains le pire.
La conférence commence.
Je voudrais, comme ancien condisciple de Saint-Jean de Béthune, faire une différence entre les entrepreneurs et les coucous. Les entrepreneurs, ils créent, les coucous, ils s'emparent.
Voilà, exact, parfait. Voilà.
Deuxièmement, je voudrais témoigner de l'œuvre incroyable de Tara. Il se trouve que nous sommes partenaires, Tara et l'association que j'ai créée sur les fleuves, on en parlait hier, et notamment, s'il n'y avait pas Tara, on ne saurait pas qu'à l'embouchure de tous les grands fleuves européens, il y a du plastique de toutes les tailles. Et là, je reprends une autre casquette d'ambassadeur de l'Institut Pasteur. C'est grâce à Tara qu'on avance. Parce qu'avec une sorte d'incroyable inconséquence, on connaît beaucoup mieux l'espace que la mer. Et la vie, elle est venue de la mer. Donc, merci Tara.
70%.
Vous voyez, je peux être bref.
70% de la pollution océanique provient des fleuves, des embouchures.
Autre question ?
Il y a aussi le président de la Volga-Longa qui veut dire un mot.
Juste une question. Est-ce que vous avez assisté aux questions légales entre le San Diego Yacht Club et Nouvelle-Zélande dans les années 80 ? Parce qu'il y a eu des procès qui n'ont pas fini entre les deux pays pour la Coupe de l'Amérique. Et donc il y a eu ce challenge entre un catamaran et le big boat. Je ne sais pas si vous avez...
Oui, enfin, je n'ai peut-être pas au tribunal à New York, mais c'est vrai aussi que les gens qui sont allés à New York contre une équipe américaine à la Cour suprême de New York, ils étaient voués à l'échec. C'est-à-dire que quand on... c'est un peu comme si vous plaigniez de votre femme auprès de votre beau-père. Si vous allez au tribunal de New York contre une équipe américaine, c'est sûr que vous avez peu de chances de gagner.
Une question ici.
Une chose qui me frappe beaucoup, c'est que pendant des siècles et même des millénaires, les bateaux étaient simplement des objets flottants avec une barrière contre le vent. Et quand vous parliez des régatiers américains de la côte Est, il s'agissait essentiellement de batailles entre des navigateurs. Et maintenant, on a l'impression qu'il s'agit surtout de batailles de technologie, c'est-à-dire que les bateaux de la course américaine n'ont plus rien à voir avec les bateaux flottants que nous connaissons, et ce sont devenus des objets où chaque détail, le moindre détail, est à la pointe, un film du progrès.
Oui, ça ressemble plus maintenant à un jeu vidéo qu'à un sport. C'est très impressionnant parce que les marins ont maintenant une bouteille d'oxygène dans le dos, au cas où le bateau chavire. Il y a eu un accident horrible à San Francisco, catamaran qui s'est retourné, un champion anglais qui est mort, qui est resté sous le bateau. Donc c'est des bateaux extrêmement dangereux, extrêmement rapides. À ces vitesses-là, quand on marche à 55 nœuds, ce qui est le cas des monocoques à foil, je ne parle pas des multicoques qui vont plutôt moins vite, les monocoques à foil de l'America's Cup, le record c'est 107 km/h. C'est des vitesses où la mer est un mur de béton. Et le moindre accident, c'est un carnage, quoi. Donc c'est vrai que la voile a beaucoup changé, même la voile olympique. D'ailleurs, à mon avis, la voile va disparaître des Jeux olympiques. Je pense que l'évolution technologique est effectivement passionnante, passionnante aussi pour la course au large. Ces IMOCA qui ont fait le tour du monde sur des foils, c'est quand même absolument impressionnant. Mais pour moi, c'est un autre sport. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé dans l'America's Cup ces duels où les deux bateaux sont côte à côte. Vous êtes à la barre du bateau qui est au vent et vous voyez l'ombre de votre étai du foc qui avance sur la voile qui fait écran, la voile en dessous. Les deux bateaux avancent comme ça pendant des heures. Hein. Vous choquez un centimètre d'écoute. Vous voyez votre ombre progresser sur le bateau à côté. Vous bordez un petit peu trop, vous reculez. C'est absolument passionnant. Ça, c'est un autre sport. C'est fini, ça. Maintenant, c'est à la fiction presque un jeu vidéo.
Il y a quelques régatiers parmi nous. Est-ce que vous pouvez donner quelques conseils, quelques trucs pour gagner des régates?
Armand est là ou pas? Normalement, il n'est pas là.
Il
n'est
pas là.
Je lui ai dit, de toute façon. C'est vraiment un bateau. Son bateau est un bateau de promenade merveilleux. C'est une espèce de cajou verni. Absolument magnifique. Mais il n'avance pas. Mais il n'avance pas de façon absolument incroyable. Quoi. Il y a son propriétaire qui est là, tiens. Christian est là. C'est un très beau bateau, mais c'est un peu comme France 2, c'est-à-dire qu'à mon avis, il doit remorquer 2 tonnes d'eau, je ne sais pas ce qui se passe. Et hier, on est parti, franchement, j'ai pas honte de le dire, on est parti bâbord en bout de ligne, dégagé devant tout le monde, etc. Et on a vu les bateaux passer l'un après l'autre, à côté de nous, au vent, sous le vent, à la bouée, je ne sais pas comment vous l'appelez, la bouée là-bas, la grosse tourelle, là. C'est-à-dire, une demi-heure après le départ, on était avant-dernier. Quoi. Mais je vais revenir. Hein.
Merci, Trouble, c'est ça, pour votre...
Deep Trouble.
Pour vos super témoignages. Ma question, elle porte sur l'évolution, en fait, du marché de la plaisance. Quand on voit le désintérêt ou la diminution progressive de la marine à voile, entre guillemets, par rapport à la marine à moteur... dans un monde qui se veut plus écologiste. C'est un paradoxe, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener plus de jeunes à la voile?
Je crois que la voile n'est pas morte. Il y a énormément de jeunes maintenant qui font du kite et du wings foil, etc. C'est une voie très très puissante, entre guillemets. Je crois aussi que la voile de balade, de louer un bateau... Je crois que la Beneteau marche toujours très bien avec les bateaux à voile. Les bateaux à moteur, on essaie de faire des bateaux à moteur. J'en ai un qui sont étroits, avec un petit moteur, pas trop puissant, qui marche à 12 nœuds et qui consomme pas trop de gasoil. Mais c'est vrai que la voile a beaucoup changé. La voile olympique est encore, j'ai dit tout à l'heure, risque de disparaître. Mais je crois que l'avenir est quand même pas trop sombre pour la voile. Franchement, je connais des passionnés qui rêvent de bateaux à voile et qui continuent à rêver, qui en achètent, qui en rachètent, qui en reconstruisent. Mon copain Odo se fait construire un gros bateau de 100 pieds. Enfin, il y a encore beaucoup de gens passionnés par la voile et heureusement, vu que ça dure.
Alors, vous avancez, pardon.
Bonjour, je rebondis sur votre propos sur la voile olympique. Moi, j'ai le sentiment un petit peu inverse. Je suis un petit peu plus jeune, je suis en contact avec quelques gens qui en font. Le côté mixte fait que c'est le seul sport complètement mixte. Donc, il y a déjà les NACRA, on est passé au 4-7, oui. Probablement les autres supports vont suivre. Et moi, j'ai plutôt l'impression que c'est sa piste de survie, justement, au contraire.
Est-ce que vous avez assisté à des régates de 4-70 aux Jeux olympiques?
Oui.
Vous avez vu vous trouvez que ce sont des bateaux qui naviguent?
Après, il y a le débat du support.
L'histoire du babouinage. Il secoue les voiles, on voit jamais les voiles pleines. Enfin,
en dessous d'un certain vent. Mais,
oui, c'est terrible, franchement, c'est terrible.
Mon propos était plutôt sur la mixité qui va le sauver par rapport à d'autres sports. C'était plutôt ça ma
J'espère question. Que ça va le sauver. Effectivement, c'est un des rares points positifs de la voile olympique, c'est des équipages mixtes. C'est aussi le cas de l'America's Cup, parce que maintenant, dans l'America's Cup, il y a 2 épreuves, une épreuve pour les femmes et une épreuve pour les jeunes, sur des monocoques un peu plus petits, les 40 pieds.
Non, mais la mixité, c'est effectivement le vrai sujet de la voile. Moi, je l'ai étudié dans Cours sur l'Arche. On a fait une grosse étude là-dessus. Il se trouve que jusqu'à 18 ans, c'est 50% des hommes, 50% des femmes. Et après, effectivement, les femmes ne sont pas prises dans les équipages professionnels, etc. Et en fait, aujourd'hui, sur les plus grandes courses de voile, même l'America's Cup, par la réglementation, on impose d'avoir une femme. Par exemple, sur le CELGP, qui sont les bateaux les plus rapides aujourd'hui, on impose d'avoir une femme qui est stratégiste, qui a un rôle éminemment important à bord. Sur effectivement tous les supports des Jeux Olympiques, les 10 supports, ils sont tous mixtes, quoi, en dehors des petits supports. Et sur la Coupe de l'América, sur la prochaine Coupe de l'América, pour la première fois, on va avoir une Women's America's Cup, c'est-à-dire une compétition uniquement dédiée aux femmes. Mais effectivement, c'est une des pistes. Un point pour revenir sur la voie de l'écologie. Le prochain défi America's Cup s'appellera Orient Express. Orient Express, c'est une marque qui a racheté le groupe Accor. Et en fait, ils vont lancer le premier paquebot à voile avec aile rigide et qui sera un peu comme le Ponant, mais qui est aussi une des pistes d'amélioration écologique. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent, qui font qu'effectivement, la notion de mixité, la notion d'écologie, la voile est très, très, très proche de l'actualité, elle est tournée vers l'avenir. Moi, je suis assez positif. Le seul point, effectivement, où on peut tous avoir... quand on parle du Vendée Globe ou de la Coupe de l'Amérique, il y a une tendance à aller de plus en plus vite. Est-ce qu'il faut aller de plus en plus vite? Je ne sais pas, parce qu'effectivement, ces bateaux sont très dangereux. J'en parle très bien, parce que moi, j'ai un bateau à foil sur l'île qui s'appelle Cup Legend, du nom de mon magazine. Et effectivement, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant la vitesse, c'est surtout de voler, parce que voler, c'est aussi une autre voile. C'est celle qu'a initié Eric Tabarly avec son Paul Ricard, qu'il n'avait pas réussi à faire, mais aujourd'hui on est capable de le faire grâce justement à la Coupe de l'Amérique. Et la Coupe de l'Amérique, si moi j'ai cette passion, c'est ces trois choses. Coupe de l'Amérique, c'est la technologie. On est toujours en avance. Ça a fait avancer la voile. C'est d'histoire, c'est des valeurs,
les winches, tout ça, ça vient de la Coupe d'Amérique.
Exactement, et c'est la tradition. Et puis c'est le match racing, cette capacité à se battre sur l'eau, dont rappeler les bons moments avec Bruno. Voilà ce qu'on... En tout cas...
Dans le livre, on n'a pas évoqué ça, mais dans le livre, je parle aussi de personnages absolument extraordinaires que j'ai bien connus, comme Philippe de Broca, comme Jean-François Deniau, et des histoires absolument à mourir de rire avec Jean-François. Voilà. Merci beaucoup de votre présence.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?